Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. En ce début du mois de février, nous sommes très heureux de retrouver notre évêque, Monseigneur Marc Haillé. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également avec Olivier Drapé, le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors Monseigneur Haillé, est-ce que je m'adresse à l'évêque de Bayonne, de Lescar et Oloron ou au futur évêque de Tarbes et Lourdes?
À ce que je sache, je suis en effet depuis un tout petit peu plus de 2 ans évêque de Bayonne, de Lescar et Oloron. Donc j'ai vu en effet que mon nom avait circulé par voie de presse à travers les indiscrétions de notre quotidien sud-ouest.
En date du 3 janvier.
Voilà, que j'aurais été nommé ou je serais éventuellement nommé évêque de Tarbes et Lourdes en succession de Monseigneur Jacques Perrier, mais tout ça est absolument sans fondement. Et vous imaginez bien que après seulement 2 ans passés dans un diocèse, ça paraît effectivement surréaliste qu'un évêque soit nommé dans un autre diocèse, en plus le diocèse voisin.
Alors Monseigneur Haillé, dans le sommaire de cette émission du mois de février, nous reviendrons sur la situation des chrétiens en Orient. Nous parlerons également bioéthique, nous parlerons de l'actualité du Vatican, de l'actualité bien sûr locale, l'actualité du diocèse, et nous parcourrons ensemble les événements à venir. Alors nous commençons par la situation dramatique, on peut le dire, des chrétiens en Orient et notamment en Irak et en Égypte.
Oui, comme vous le savez, des attentats meurtriers, tant à Bagdad au moment de la Toussaint, que à Alexandrie en Égypte, donc à la fin de l'année dernière, ont attiré l'attention du monde occidental et de l'opinion publique sur le sort qui est souvent réservé aujourd'hui aux chrétiens du Moyen-Orient, donc dans ces pays ou bien islamistes ou bien à dominante musulmane, tout en étant souvent réputés laïcs. Et c'est vrai qu'on découvre en effet que une certaine discrimination est fréquemment exercée vis-à-vis des populations chrétiennes, jusqu'à des attaques très graves, et on peut dire que les chrétiens du Moyen-Orient sont persécutés pour leur foi.
Alors le pape Benoît XVI, bien sûr, a réagi plusieurs fois, a condamné donc ces attentats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, bien sûr, il y a la prière, mais est-ce qu'on peut agir à notre niveau?
Alors je crois que dans les messages du Saint-Père, que ce soit pour la Journée mondiale de la paix, hein, au 1er janvier, que ce soit dans son discours annuel de vœux à la Curie romaine et au corps diplomatique, le pape a beaucoup insisté sur la question de la liberté religieuse, en disant et en réclamant cette liberté religieuse, chaque fois qu'elle n'est pas reconnue à des minorités religieuses dans le monde, et en particulier disant que les chrétiens sont le groupe religieux le plus en butte à la persécution aujourd'hui dans le monde, non seulement dans ces pays d'ailleurs, hein, du Moyen-Orient ou quelquefois en Asie, je pense au Pakistan ou en Asie du Sud-Est, en Chine, mais également dans nos pays de forte tradition chrétienne où on sent quelquefois une certaine christianophobie émerger dans l'opinion publique, et avec des moyens de persécution qu'il appelle plus silencieux, plus sophistiqués, mais qui s'opposent de manière assez frontale aux croyants et aux symboles religieux qui sont les nôtres.
Madame Alliot-Marie, la ministre des Affaires étrangères, a réagi. Par contre, les parlementaires européens ont du mal à se mettre d'accord pour avoir une action, pour soutenir en tout cas ces chrétiens d'Orient.
En tout cas, le pape s'engage dans une action, je dirais, politique, au sens fort du terme, et en demandant que les Occidentaux et d'une certaine manière la communauté internationale se mobilisent pour réclamer la liberté religieuse dans les pays à dominante musulmane, pour les chrétiens en particulier, puisqu'elle ne l'est pas reconnue, et aussi de faire toutes sortes d'actions pour protéger ces populations contre les terroristes islamistes, les fondamentalistes islamistes, car il s'agit bien évidemment d'actes de violence qui sont perpétrés par ces groupes.
Monseigneur, est-ce que vous pensez que la crainte que l'islam peut susciter dans nos pays, et pas uniquement dans les pays majoritairement musulmans, est justifiée? Comment percevez-vous cette soi-disant menace que représente peut-être l'islam par rapport à la liberté religieuse?
On ne peut pas nier qu'il y ait aussi dans nos pays occidentaux, et en particulier en France, une certaine montée de l'islam hein, par les flux migratoires qui ont caractérisé ces dernières décennies. Et d'une certaine manière, un certain islamisme fondamentaliste qui semble formater des musulmans qui, pour la plupart, sont souvent modérés. C'est pourquoi il ne faut pas céder à la panique pour autant et certainement pas faire œuvre d'islamophobie à l'occasion. Mais il faut quand même être assez réaliste et se dire que le bien commun d'une société comme la nôtre peut être mis en cause par un système religieux qui est aussi un système social et politique et qui amène avec des convictions religieuses que nous avons à respecter. D'ailleurs, nous sommes dans un pays où précisément la liberté religieuse est reconnue à toutes les religions et tous les groupes religieux qui sont présents sur notre sol, mais amène aussi des lois, des réglementations sociales, des organisations internes qui peuvent, tôt ou tard, dans certains lieux, nous le voyons dans certaines banlieues parisiennes ou dans certaines villes du nord de la France, apporter quelques déséquilibres et quelques risques d'affrontement, en effet, avec les populations françaises en place.
Monseigneur, nous avons parlé des chrétiens du Moyen-Orient, plus particulièrement de la minorité copte en Égypte. Les soulèvements qui ont lieu actuellement, aussi bien en Tunisie, qui ont suscité le départ du président Ben Ali, qu'en Égypte, avec une ampleur impressionnante des manifestations de rue, vous inspirent quelle réflexion ?
Bon, il est évident qu'il y a là une réaction populaire à des formes de gouvernement autoritaires et fortement corrompues, avec d'ailleurs, comme on le sait bien, la complicité de pas mal de nations occidentales pour des intérêts politiques ou commerciaux. Tout cela est à regarder avec beaucoup d'attention quand même, parce que on sait bien que là où il y a un désir légitime au regard de la communauté internationale pour des populations d'adhérer à une plus grande démocratie, il y a aussi le risque que certains groupes fondamentalistes islamistes, comme on l'a vu en Irak en particulier, puissent s'insérer dans cette cacophonie et peut-être récupérer les dividendes.
L'actualité nationale m'amène à vous interroger sur les projets de loi, le projet de loi de révision de la loi bioéthique de 2004. Vous avez toujours été attentif à ces problèmes qui touchent au respect de la vie et qui touchent au statut de l'embryon. Comment percevez-vous précisément cette révision de la loi bioéthique ? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a un danger réel d'aggravation de la loi votée en 2004 ?
Si j'en crois le remarquable travail qui a été accompli par les évêques de France sous la direction de Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, pour engager un dialogue de fond avec les parlementaires, les professionnels de santé, le monde du droit et les responsables de la société civile et les élus, par rapport à cette révision de la loi de bioéthique, tout ce qui était engagé, en effet, pour informer, au-delà des catholiques, les citoyens français sur les enjeux anthropologiques qui sont portés par cette révision de la loi de bioéthique. Si j'en crois aussi la multiplication des interventions récentes du cardinal 23, que ce soit lors de la dernière assemblée plénière en novembre à Lourdes, mais aussi plus récemment dans des tribunes dans de grands quotidiens français ou de Mgr Dornelas ou d'autres évêques, je crois qu'en effet on perçoit qu'il y a une véritable menace sur le respect de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle, même si on sent que le projet qui était pour l'instant présenté par le gouvernement encadre peut-être avec des ouvertures que ne possédait pas la précédente loi, qui d'ailleurs était marquée par un moratoire de 5 ans. On sent qu'il y a quand même des risques à voir aussi les amendements possibles de la commission parlementaire actuellement saisie de ce projet de loi, les lobbies à la fois scientifiques ou commerciaux ou idéologiques hein, qui font actuellement le siège des parlementaires. On peut craindre, en effet, que soit inscrit dans cette loi des choses qui avaient pourtant été évitées par le projet et où le bon sens semblait quand même, pour une part, s'imposer après l'audition du Conseil d'État et après les États généraux de la bioéthique où les citoyens, et en particulier les catholiques, s'étaient tout à fait largement exprimés sur la question.
En l'occurrence, le danger pourrait être que la recherche sur l'embryon soit purement et simplement autorisée, alors que le régime actuel est un régime en fait d'interdiction de principe, avec malheureusement un certain nombre de dérogations qui sont admises depuis 2004.
Voilà, il semble en tout cas que c'est en effet là que se situe l'enjeu le plus important de ce projet de loi, c'est-à-dire le sort qui va être réservé aux embryons à travers en effet les recherches sur les cellules souches embryonnaires que l'on continue de présenter comme la panacée pour guérir un certain nombre de pathologies. Alors qu'on sait très bien qu'une alternative a été largement découverte depuis avec la recherche sur les cellules souches adultes ou de sang de cordon ombilical, dont nous savons que les résultats sont déjà plus que prometteurs et déjà efficaces. Donc je crois que là, il y a un véritable enjeu et c'est là-dessus que doit se focaliser l'attention de l'Église. Comme vous le savez, les évêques, dans ces jours qui précèdent la révision du projet de loi, ont été invités par l'Assemblée plénière de novembre à adresser une note qui a été faite d'ailleurs par Mgr Dornelas pour montrer les enjeux anthropologiques de ce projet de loi que j'ai moi-même adressé à tous les parlementaires du département avec une lettre les invitant en effet à porter leur attention sur le risque que la dignité de la personne humaine à sa conception ne soit déniée et finalement bafouée de manière très grave.
Monseigneur, un certain nombre de catholiques du diocèse ou extérieurs au diocèse ont été étonnés, surpris de voir que vous preniez part, que vous participiez à la Marche pour la vie qui a eu lieu à Paris le 23 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, comme vous le savez, je fais partie des 25 évêques en France qui soutiennent depuis plusieurs années cette Marche pour la vie, dans la mesure où je suis assuré maintenant que le collectif qui organise cette manifestation pour promouvoir une culture de vie encadre suffisamment les manifestants et fait de cette manifestation vraiment une démarche apolitique et aconfessionnelle où des hommes politiques et des hommes religieux peuvent évidemment participer à cette manifestation, mais sans apporter leur étiquette, ni leur slogan, ni leur... Ni en faire une vitrine pour leurs propres opinions ou leurs propres confessions religieuses. J'étais à Paris à ce moment-là. Je n'ai pas voulu faire d'effet d'annonce pour justement ne pas être considéré comme un porte-drapeau. J'y suis allé comme un évêque sans doute, mais comme un citoyen, pour accompagner, encourager des fidèles laïcs qui, de manière tout à fait apolitique et confessionnelle, s'engagent, souvent en donnant de leur personne, pour promouvoir cette dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Nous étions quatre évêques, comme vous le savez, présents. Monseigneur Lebrun, évêque de Saint-Étienne, Monseigneur Bagnard, évêque de Belle-et-Ars, un évêque auxiliaire de Salzbourg en Autriche, et moi-même. Et j'ajouterais que nous avions eu une réunion en marge de l'Assemblée plénière, qui sont d'évêques, et nous avions invité pour parler de cette question Monseigneur Décume, qui est le président de la commission épiscopale famille et société, et en discutant, il nous avait dit lui-même qu'il comprenait tout à fait le sens de la démarche pour des laïcs, citoyens, de défendre cette cause en descendant dans la rue pour alerter les consciences. Et en même temps, il n'était pas choqué par le fait que quelques évêques puissent y participer, mais lui-même, en tant que président de la commission épiscopale famille et société, ne pouvait pas s'engager sans risquer d'engager l'ensemble de l'Assemblée plénière. Je dirais pour ma part que je crois que dans l'ordre de la fin, la défense de la vie, nous sommes tous d'accord, bien entendu. Tous les évêques sont absolument d'accord et font chorus, comme on le voit en particulier à propos de cette loi de bioéthique. En même temps, dans le choix des moyens, il peut y avoir une plus grande liberté de choix. Pour ma part, j'ai pensé que ce pouvait être un moyen complémentaire du dialogue qui est parfaitement bien mené en ce moment par la Conférence des évêques de France que une manifestation un peu publique, dans la mesure, encore une fois, où elle évite tout débordement, tout extrémisme et toute récupération.
Vous investissez beaucoup sur ces questions de bioéthique. Peut-être une question un peu plus personnelle. Dans votre parcours, je crois que vous avez fait des études de médecine. Est-ce que c'est par rapport à ces études de médecine ou tout simplement, est-ce que c'est votre baptême qui vous pousse à réagir et à intervenir à temps et à contre-temps sur ces questions ?
Alors certainement, j'ai fait une année de médecine, mais je pense que ça n'est pas suffisant. pour peser dans un tel engagement. J'ai aussi beaucoup étudié les questions morales, puisque j'ai étudié essentiellement la théologie morale, que j'ai d'ailleurs enseignée au séminaire. Mais j'ai toujours été frappé par l'appel à un sursaut des consciences et à une promotion de la culture de la vie par le pape Jean-Paul II. Et j'étais tellement marqué par cet appel que j'ai voulu lui donner un peu chair dans mon propre engagement de pasteur. Hein. Mais en même temps, je crois être très conscient qu'il s'agit d'une question de dignité humaine que nous partageons avec tous, et dignité humaine qui ne doit pas être partagée d'ailleurs, je veux dire divisée plus exactement. Il est évident que je veux défendre la dignité humaine chaque fois qu'elle est bafouée. C'est vrai dans le plus faible, le plus vulnérable, ce peut être celui qui ne vit pas du produit de son travail, comme beaucoup aujourd'hui. Je me suis engagé aussi aux côtés des agriculteurs dans la crise actuelle, et c'est aussi, a fortiori, le plus démuni qui est l'enfant à naître.
Venons-en maintenant à l'actualité de Rome et du Vatican, et notamment à différents messages que le pape a adressés récemment. Bon, vous avez vous-même évoqué le message du 1er janvier pour la journée mondiale pour la paix. Il y a eu également le message pour la journée mondiale du migrant. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces appels de début d'année du pape Benoît XVI?
C'est toujours, si vous voulez, le souci qu'a le Saint-Père de promouvoir la dignité humaine, voyez, dans toutes ses composantes et sans aucune discrimination, bien sûr. Et j'étais très frappé par le beau message du Saint-Père pour la journée mondiale du migrant et du réfugié au mois de janvier, d'ailleurs intitulé « Une seule famille humaine ». Vous savez, c'est là qu'on comprend bien l'expression de Paul VI qui disait que l'Église est experte en humanité, et qu'on peut ajouter que nous, chrétiens, nous croyons que le Christ, qui est Dieu fait homme, eh bien, révèle l'homme à lui-même, comme le disait le Concile Vatican II dans sa constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Oui, le Christ révèle l'homme à lui-même et lui manifeste l'éminence de sa vocation et de sa dignité. C'est pourquoi l'Église doit avoir un discours très clair sur la dignité humaine qui s'accomplit parfaitement dans le Christ et donc dans le message de l'Évangile sans doute. Hein. Et j'étais très frappé par ce message où l'Église rappelle le droit de tout homme à émigrer, c'est-à-dire à quitter son pays et à entrer dans un nouveau pays pour améliorer ses conditions de vie chaque fois que cela est nécessaire, tout en reconnaissant bien sûr aux États le droit de réglementer les flux migratoires pour que le bien commun de la société soit toujours respecté, en demandant évidemment aux migrants, quels qu'ils soient, et c'est vrai pour nous lorsque nous sommes à l'étranger, bien de respecter les lois du pays d'accueil et son identité nationale ou culturelle. Je dirais pour notre part que nous n'avons pas interféré à une politique gouvernementale, quelle qu'elle soit, en particulier dans le domaine de l'immigration, mais nous devons évidemment être très vigilants lorsque la dignité de la personne humaine dans cette politique d'immigration n'est pas toujours respectée. Et en particulier, c'est vrai qu'à l'occasion de cette journée du migrant, j'ai invité tous les migrants à faire chorus par rapport à la situation des chrétiens au Moyen-Orient, dont nous avons parlé au début de cette émission, en ne doutant pas que tous les immigrés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession, qui sont sur notre sol, respectés dans leur liberté, et en particulier la liberté religieuse, sauront s'élever contre ce déni de liberté religieuse et s'unir pour le réclamer.
Seigneur, vous avez évoqué il y a un instant la grande figure du pape Jean-Paul II qui sera béatifié le 1er mai prochain. Est-ce que vous considérez que vous faites partie de ce qu'on a appelé la génération Jean-Paul II, et comment réagissez-vous à cette annonce de la prochaine béatification de Jean-Paul II?
Oui, j'aime me considérer comme de cette génération Jean-Paul II pour être rentré au séminaire un an avant son élection, hein, au pontificat romain, et il a vraiment accompagné non seulement toute ma formation sacerdotale, mais aussi mes premières années de sacerdoce et même toutes les responsabilités que j'ai pu avoir dans l'Église pendant toutes les années de son pontificat. Et donc j'ai été très marqué en effet par sa figure charismatique, hein, et je dirais son ministère pétrinien tout à fait prophétique, en particulier cette manière qu'il a eue d'aller à la rencontre des églises sur le terrain, pour sentir à la fois la vitalité du peuple de Dieu et aussi l'encourager d'une certaine manière à donner toujours plus de visibilité à son témoignage de foi dans ce monde d'aujourd'hui, en particulier ce monde sécularisé sur lequel il a tant parlé. Je crois que le pape Jean-Paul II, d'une certaine manière, restera pour nous, à la suite du Concile, le pape qui a donné une visibilité à la foi de l'Église, une foi qui a été pour lui très éprouvée hein, dans un pays communiste, et il a été, par son témoignage, certainement l'un des artisans de la libération des pays du bloc communiste de l'Est. Je retiens qu'il a été le pape de la miséricorde, et d'ailleurs, il est mort la veille du dimanche de la miséricorde qu'il avait lui-même instauré, et c'est le 1er mai, pour le dimanche de la miséricorde, que le pape Benoît XVI a choisi pour célébrer sa béatification. Je reconnais aussi qu'il est le pape de la vie. Et je suis très frappé de voir que, et c'est sans doute un clin d'œil de la Providence pour moi, que le miracle reconnu pour confirmer sa cause de béatification, qui avait été déjà préparée par l'examen de l'héroïcité de ses vertus, hein, à travers une enquête, comme vous le savez, très sérieuse, méticuleuse, méthodique, à partir de nombreux témoignages qui sont évidemment encore très vivants, hein, puisque c'est il y a seulement 6 ans qu'il nous a quittés. Et je remarque que ce miracle, eh bien, concerne une religieuse encore assez jeune, qui était atteinte de la même maladie que lui, dont il est mort, quant à lui, une maladie de Parkinson, extrêmement invalidante et incurable, et qu'en plus elle est une sœur des maternités catholiques, dont la charte par excellence est l'encyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie. C'est un petit clin d'œil qui me semble intéressant à noter.
Monseigneur Ailly, vous avez vous-même personnellement rencontré Jean-Paul II ?
Alors, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, déjà comme séminariste, et puis ensuite avec les jeunes de l'aumônerie. J'étais très, très heureux de pouvoir le rencontrer, de lui présenter mes jeunes, à la fois les lycéens, puis notre année c'était les collégiens, puis j'ai participé, comme beaucoup de prêtres, aumôniers de jeunes en particulier, à de nombreuses JMJ, où j'ai pu le rencontrer et le voir de près, hein, et voir cette osmose ou cette communion de ce pape avec le peuple de Dieu rassemblé au nom du Christ.
Le diocèse va-t-il prévoir, par exemple, un transport ou quelque chose pour que des diocésains puissent se rendre à Rome pour la béatification?
Alors je crois qu'il faudra qu'il y ait une petite délégation, parce que vous savez, le temps court, et depuis l'annonce de la béatification, les hôtelleries de Rome et des environs ont déjà été prises d'assaut. Moi-même, je ne pourrais malheureusement pas m'y rendre puisque j'ai un engagement à Ars pour présider le dimanche de la miséricorde ce jour-là, mais je serai évidemment en grande communion, vous l'imaginez bien. Et de toute façon, après la béatification, nous ferons certainement une messe d'action de grâce dans le diocèse pour marquer cet événement qui est important pour nous tous.
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, Monseigneur Ailly, à l'actualité plus locale. L'ETA a décrété une trêve permanente le 10 janvier dernier. Qu'en pensez-vous ?
Alors, on ne peut que se réjouir hein, d'une telle déclaration, quand on sait en effet que jusqu'à présent, l'ETA a plutôt exploité la voie de la violence et du terrorisme pour défendre sa cause, hein. De la liberté du Pays basque. En même temps, je pense bien, comme tout le monde, qu'il faut toujours accueillir ça avec beaucoup de prudence, parce que c'est sans doute pas la première fois qu'une déclaration de ce type a été proclamée. Il reste qu'on ne peut que se réjouir d'une telle décision.
Vous, personnellement, vous suivez l'actualité politique du Pays basque ?
J'essaie de la suivre, hein, comme j'essaie de suivre l'actualité politique nationale et internationale. Je ne suis pas sûr de pouvoir tout comprendre encore, hein, parce que je pense que nous entrons dans des nuances parfois, et aussi beaucoup de diversités qui sont souvent des divergences au sein même du Pays basque et des bascophones, si vous voulez. Et donc, je ne suis pas encore à même de pouvoir y voir très clair. Pour ma part, je reste très attaché, en tout cas, à la culture locale. Hein. Et pour moi, il est très important que cette culture locale ait vraiment droit de cité, à travers donc une langue et à travers des traditions et des valeurs qui sont transmises précisément par la langue dans notre Pays basque.
Venons-en maintenant à l'actualité diocésaine du 18 au 25 janvier. C'était la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et vous avez participé avec d'autres chrétiens à cette prière pour l'unité.
Tout à fait, oui. J'ai participé essentiellement à une célébration œcuménique qui, comme chaque année, se tient au Carmel de Bayonne. Donc nous sommes reçus dans cette atmosphère de prière et de paix qui est notre Carmel de Bayonne. Et donc avec les différentes confessions chrétiennes. Et cette année, l'invité était Monseigneur Marc Alaric, qui est le vicaire patriarcal pour l'Église roumaine orthodoxe. Il se trouve d'ailleurs, pour la petite histoire, que nous étions en terminale ensemble à l'école Massillon, tenue par les orthodoxes à Paris. Vous voyez, donc on s'est retrouvés quelques années plus tard, c'est-à-dire 35 ans plus tard. Et donc c'est lui qui prêchait au cours de cette célébration que je présidais. Et ensuite j'ai participé à la conférence qu'il a donnée sur l'iconographie, très intéressante d'ailleurs, et qui a donné lieu à de très beaux échanges. Et puis, au cours de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, un peu en marge, car c'était pas tout à fait le thème, mais en prévision de ce débat sur la loi de bioéthique, j'avais invité le pasteur Daniel Rivaud de l'Église évangélique de Strasbourg, et le père Georges Ashkoff, qui est donc le prêtre pasteur de la communauté orthodoxe de Biarritz, pour parler ensemble sur le respect de la vie et la culture de vie. Et nous avons pu parler à trois voix, et comme disait un certain nombre de participants, il y avait une centaine de participants, ils trouvaient que la stéréo marchait et fonctionnait très bien.
Voilà, d'ailleurs les auditeurs de Radio La Pourdie ont pu bénéficier, ont pu entendre donc ces diverses interventions du 20 janvier dernier, c'était à la salle Montaud à Bayonne. Monseigneur Ayé, juste un mot sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Est-ce que ça vous paraît normal qu'un pasteur protestant prêche lors d'une messe catholique comme ça s'est fait à Biarritz?
Alors, vous savez, normalement, d'après le droit, à la messe, dans la liturgie dominicale, seul le prêtre est habilité à prêcher, sauf dans des cas très particuliers, comme celui précisément de la semaine de prière pour l'unité. Il est tout à fait possible, je crois que le directoire œcuménique le permet, qu'on invite un pasteur à commenter la parole de Dieu au cours de la messe pour marquer précisément cette semaine de prière pour l'unité.
Ça ne vous choque pas?
Ça ne me choque pas. J'ai moi-même d'ailleurs, en tant que curé de paroisse, pratiqué cet échange de chair et je suis allé prêcher, invité par le pasteur de l'Église réformée, au cours du culte du dimanche.
À propos, Monseigneur, des événements qui ont concerné le diocèse, pouvez-vous nous parler de la visite pastorale que vous avez effectuée dans le Béarn, à Orthez, si je ne me trompe pas, et à Castétis, à la fin du mois de janvier dernier?
J'ai repris au début du mois de janvier une série de visites pastorales mensuelles, comme vous le savez, dont les dates ont déjà été programmées. Et j'ai commencé en effet par cette zone du Béarn, sud et ouest, entre donc Pau et la Côte Basque et le Pays Basque, donc la paroisse de Saint-Pierre de Moncadortès et la paroisse Saint-Jean-Baptiste des Rivières, Castétis. Et comme toujours, c'est une grande joie que d'aller à la rencontre des paroissiens mobilisés dans tous les domaines de la mission de l'Église. Toujours une grande joie aussi de rencontrer ces réalités humaines et les élus, ici la gendarmerie, les pompiers, les agriculteurs, toujours, de nombreuses réalités comme ça qui constituent le terreau humain et chrétien de ce territoire. Je rencontre toujours les mêmes difficultés qui sont parfois des causes de découragement ou d'inquiétude pour les prêtres comme pour les fidèles. Je pense à la difficulté de transmettre la foi aux jeunes, même si on trouve aussi des vitalités encouragées au niveau de l'enseignement catholique que j'ai visité longuement, du catéchisme, de l'aumônerie des collèges et des lycées, avec un très beau témoignage donné par quelques jeunes étudiants du Pays Basque et du Béarn qui rentraient des rencontres internationales européennes de Rotterdam avec Thésée et qui avaient aussi fait l'expérience de Sydney et qui venaient mobiliser un peu les troupes pour les JMJ à venir. Au fond, je me suis dit que l'essentiel est pour encourager tous les fidèles mobilisés et les prêtres dans la situation actuelle de l'Église, qui est toujours une situation de crise, de la transmission de la foi et des vocations, c'était de les inviter à revenir à l'essentiel de la grâce du baptême et de se dire que nous avons tous besoin de nous laisser évangéliser par la parole de Dieu, de répondre à son appel constant à la conversion, de faire que cette rencontre avec le Christ change notre vie et de cette manière nous rendre toujours plus crédibles dans notre vie de famille, dans notre travail, dans notre vie de loisir ou dans notre vie associative, et bien pour les jeunes et pour les hommes et les femmes qui se tiennent loin de l'Église aujourd'hui ou se sont éloignés d'elle, afin qu'ils puissent entendre ce message de l'Évangile et rejoindre nos communautés.
Monseigneur, vous effectuez une visite pastorale par mois, en moyenne en tout cas, donc une dizaine peut-être de visites pastorales par an. La prochaine visite pastorale à la fin du mois de février, du 23 au 27, aura lieu au Pays Basque, à Larcevaux.
Oui, dans le Pays Basque intérieur, et en particulier dans la terre de Saint-Michel Garicoïds. Donc c'est déjà hâte de découvrir, parce que je ne suis toujours pas allé dans sa maison natale, et je vais avoir l'occasion de me ressourcer dans ce beau Pays Basque intérieur.
Du 12 au 18 février, vous serez à Rome.
Je serai à Rome avec le séminaire, voilà. J'ai pensé, avec l'abbé Jacques de Mesmec et son supérieur, accompagner donc les séminaristes pour un pèlerinage romain après leur première session d'examen dans laquelle ils sont actuellement mobilisés et donc pour rencontrer le Saint-Père et puis sentir aussi le cœur de l'Église universelle qui bat à Rome à travers quelques rencontres non seulement avec des vieilles pierres, des belles basiliques où nous célébrons la messe qui sont les sources mêmes de notre foi, les lieux du martyr de Pierre et Paul, les grands fondateurs de l'Église, on peut dire, après Jésus. Et nous rencontrons aussi pas mal de hauts responsables de l'Église universelle pour sentir aussi un peu les enjeux et les défis de l'Église à l'échelle de la planète.
Monseigneur, votre lettre pastorale a été rendue publique, publiée, diffusée il y a maintenant un mois et demi peut-être, ou deux mois, bientôt deux mois certainement. Et peut-on vous demander quel retour vous avez, comment vous percevez la réception par les fidèles du diocèse de cette lettre pastorale?
Quelques prêtres m'ont écrit de manière très très sereine, pour engager un dialogue, comme je le désire et comme je le souhaite, que cette lettre pastorale soit l'instrument d'un vrai dialogue pastoral avec les prêtres, qui sont mes premiers collaborateurs, avec les fidèles engagés dans les paroisses, les mouvements et les services, et avec le peuple de Dieu d'une manière plus large et plus générale. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de témoignages de sympathie, d'adhésion, de nombreux, j'allais dire, fidèles de base, mais je me dis toujours que il n'y a pas de fidèles de première classe et de seconde classe. Nous sommes tous engagés dans la mission de l'Église, non pas par l'acquisition d'un savoir ou d'un pouvoir dans l'Église, mais à partir de la grâce de notre baptême. Et le but étant vraiment d'inviter le peuple de Dieu tout entier, prêtres et fidèles et consacrés, un renouveau missionnaire qui passe par un renouveau intérieur et qui passe par une exigence de communion entre nous dans des différences, des diversités qui existent, qui se font jour et qui sont aussi à l'image de notre société extrêmement plurielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés. Je souhaite en tout cas que ce dialogue s'instaure. Nous aurons au cours de la prochaine session du Conseil presbytéral les 10 et 11 mars prochains une séance pour parler un peu de cette réception de la lettre pastorale avec aussi un écho des réunions que j'ai tenues au cours du premier trimestre de cette année 2010-2011 avec les conseils pastoraux paroissiaux par zone territoriale, précisément sur le cœur même de cette lettre pastorale qui est une nouvelle première annonce de l'Évangile. Le samedi 19 février prochain, à Belloc, à l'invitation donc des moines de Belloc, dans le cadre des conférences habituelles qui s'y tiennent, eh bien je présenterai à nouveau cette lettre pastorale devant l'arche publique. Je souhaite d'ailleurs que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises et comme je l'ai rappelé aux prêtres à l'occasion des vœux et dans une lettre récente, que peut-être pendant le temps du carême, on organise des groupes de réflexion pour étudier cette lettre, se la ressaisir et aussi entamer ce dialogue que je souhaite.
Donc cette conférence aura lieu le samedi 19 février à 15h15. Soyez là à partir de 15h pour ne pas rater le début. Donc, et c'est ouvert, c'est une conférence publique, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et peut-être que vous dédicacerez votre lettre pastorale à cette occasion.
Peut-être, j'ai eu déjà beaucoup d'occasions de le faire, car beaucoup de fidèles sont venus, même des prêtres, sont venus me demander de signer cette lettre pastorale.
Monseigneur, le 6 mars prochain, pour les Bayonnais, plus particulièrement, c'est la fête de Saint-Léon, donc une occasion importante, une solennité, mais cette année qui revêt une dimension un peu particulière, plus solennelle que les années précédentes. Est-ce que vous pouvez là aussi nous dire quel est le programme, j'allais dire, des festivités du 6 mars?
Alors j'ai invité en effet le cardinal Jean-Pierre Ricard, qui est notre archevêque métropolitain, et je n'oublie pas que c'est lui qui m'a transmis la grâce de l'ordination épiscopale par l'imposition de ses mains. Et donc je l'ai invité à présider cette fête de la Saint-Léon. D'abord la messe pontificale qui sera célébrée à la cathédrale à 10h30. Et puis l'après-midi, je lui ai demandé de donner une conférence publique, donc à 15h30, qui sera suivie du chant des Vêpres et du salut du Saint-Sacrement.
Puisque l'on parle de Mgr Ricard, l'archevêque métropolitain de Bordeaux, on peut peut-être signaler l'ordination d'un évêque auxiliaire à Bordeaux.
Oui, c'est ça. Donc nous sommes heureux. C'est un événement donc qui concerne toute la province et puis qui concerne aussi le corps épiscopal auquel j'appartiens. Nous allons accueillir en effet Mgr Laurent Donien, qui précédemment était vicaire général du diocèse de Nanterre et qui a été nommé par le Saint-Père évêque auxiliaire de Bordeaux pour succéder à Mgr Jacques Blacard, qui, comme vous le savez, a été nommé il y a quelques mois évêque d'Orléans.
Mgr Haillé, pour conclure, un mot sur le grand rassemblement diocésain qui aura lieu, c'est un peu loin, mais déjà il faut en parler, le 12 juin prochain. Que va-t-il se passer?
Voilà, je crois que c'est important déjà de commencer à en parler. J'espère que déjà l'information est passée, puisqu'elle a été communiquée depuis déjà plusieurs semaines et plusieurs mois même. Donc nous aurons l'occasion d'un grand rassemblement diocésain autour du thème de la famille, hein, puisque la famille est la cellule de base de la société comme de l'Église. Famille en fête qui aura lieu le dimanche de Pentecôte, qui consistera d'abord dans un accueil de tous vers 10h, avec un temps de louange, un temps de rassemblement pour donner un petit peu le coup d'envoi à la journée avec le programme. Ensuite, un centre d'activités par groupe présent, à la fois au niveau de la catéchèse pour les enfants et leurs parents, de manière un peu intergénérationnelle, un concours pour les jeunes qui seront présents, et puis d'une manière générale pour les familles et j'allais dire le gros de la troupe, une rencontre sous un chapiteau autour du thème de la famille avec quelques témoignages audiovisuels sur un exemple de famille du diocèse et pour réfléchir précisément sur le sens et l'importance de la famille dans la société, dans l'Église aujourd'hui comme lieu de socialisation, d'humanisation, d'éducation affective et aussi lieu de transmission de la foi, bien entendu, comme on s'en doute. Pour se retrouver vers midi pour un grand pique-nique familial et à partir de 14h30, une petite animation avec des chorales du Pays Basque qui nous prépareront à entrer dans la célébration de l'Eucharistie qui sera le sommet et la conclusion de cette grande journée au cours de laquelle je confirmerai les adultes du diocèse qui sont d'ailleurs confirmés chaque année à la Pentecôte.
Donc c'est vraiment un rassemblement diocésain, ça ne concerne pas uniquement que, j'allais dire, les jeunes parents, c'est pas uniquement un rassemblement des familles, mais c'est vraiment tout le diocèse qui est invité.
C'est la famille diocésaine, hein, même si c'est autour du thème de la famille, car je crois qu'il faut promouvoir la famille qui est souvent menacée et souvent décomposée aujourd'hui dans notre paysage actuel.
Notons bien donc la date, dimanche 12 juin, donc à Notre-Dame du Refuge à Anglette, dimanche de Pentecôte. Merci Monseigneur.
Merci.
Et merci à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Merci Olivier.
Merci.
Cet entretien a été enregistré le 2 février 2011.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
C'était l'entretien du mois avec notre évêque, Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien sur notre site internet www.lapourdi.net.